France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Pour Nathalie Sarraute, écrire, c'est toujours déformer. Déformer parce que le réel ne peut être retranscrit tel qu'il est. Déformer parce que l'écriture objective n'existe pas. Déformer, finalement, parce que ce ne sont pas des images vraies ou des faits qu'elle veut donner à voir au lecteur. Son roman à elle, celui que la critique s'est empressée d'appeler le nouveau roman, sert à transmettre au lecteur des sensations enfouies derrière des dialogues banals, et ce sans passer par l'intelligence ou l'analyse. Comme une scientifique, Sarraute se spécialise dans un domaine du réel, ses tropismes, unité imperceptible dont la multiplicité foisonnante explique nos actions et nos paroles, sans que nous ayons la réflexivité nécessaire pour nous en rendre compte. Dans ce numéro de Domaine du roman, Sarraute déplie et déploie au micro de Georges Charbonnier son modus operandi, une écriture de la sensation, qui se refuse à tout intellectualisme malgré son opacité occasionnelle, et qui veut saisir la vie et ses mouvements sur le vif, sans ornement ni artifice. Une écrivaine au début d'une longue carrière, donc, qui ne déviera jamais des principes qu'elle avance ici, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois, le 29 mai 1961 sur France 3 Nationale.
La radiodiffusion télévision française présente Domaine du roman, une émission de Georges Charbonnier. Texte lu par Pascal Mazotti. Aujourd'hui, Nathalie Sarraute.
Nathalie Sarraute, lorsque l'on parle de l'expression, le lecteur et en général tous ceux qui s'intéressent à un texte se demandent quelle est la nature de l'expression. Est-ce que, lorsque je parle d'un écrivain, je peux dire qu'il déforme? Est-ce que le mot « déformation » à une place? Est-ce que je dois parler de la vision d'un auteur? Est-ce que je dois parler des déformations de sa vision? Quels sont les termes qu'il serait convenable d'employer?
Je crois qu'on peut parler de déformation parce que on compare la façon de voir, pour ne pas employer peut-être le mot vision, qui est très employé, mais enfin, la façon de voir d'un écrivain à celle des gens qui regardent sans faire aucun effort et sans chercher à découvrir ou à dévoiler quelque chose qui n'a pas été vu de cette manière-là par les autres.
Mais quelque chose qui
touche.
On peut dire
la même chose pour la peinture, n'est-ce pas? C'est la différence entre un tableau et ce que nous voyons par nous-mêmes. La gare d'Auvers vue par Van Gogh ou la gare d'Auvers quand nous la regardons.
Naturellement, mais au moment où je vois la gare d'Auvers vue par Van Gogh, il faut à nouveau que je la regarde parce qu'elle devient objet, tout comme la nature avait été un objet pour Van Gogh. Si bien que le problème n'est que reculer.
Absolument.
Bon, mais alors, comment voir?
Alors là, je crois que chaque écrivain a sa manière de voir, c'est-à-dire de déformer l'image qu'il a normalement quand il ne travaille pas, quand il ne fait pas d'effort. La vision du monde qu'il a habituellement dans la vie courante, quand il ne fait pas d'effort, quand il ne regarde pas, est celle de tout le monde. Et je crois qu'il n'a une vision particulière qu'au cours de son travail, quand il prépare la matière de son travail et quand il la met en forme.
Autrement, est-ce que vous prenez conscience des moments où vous voyez en écrivain? Et est-ce que ces moments sont distincts de ceux où vous écrivez ou est-ce qu'ils coïncident toujours avec ceux où vous écrivez?
Je crois que j'enregistre tout à fait inconsciemment des quantités de choses, comme tout le monde, et que le travail consiste à ramasser toutes ces choses, à les séparer de la substance à laquelle elles sont intégrées, de cet ensemble de sensations et d'impressions que tout être humain a, et de les intégrer dans un tout, de construire une forme dans laquelle elles sont rendues plus perceptibles, toutes ces choses que j'ai enregistrées sans m'en apercevoir. Comme tout le monde les enregistre, je pense, puisque les lecteurs les reconnaissent en lisant. C'est que je crois qu'elles existent chez tout le monde, mais à l'état épars, pour ainsi dire, un peu confus. Et alors il s'agit de les ramasser, de les rassembler, de les grossir, d'en faire un tout qui est justement la forme littéraire, qui le rend la chose plus perceptible.
Mais est-ce que l'on ne va pas se laisser entraîner à parler de psychologie de la vision ?
Est-ce qu'on n'est pas obligé d'en parler de toute manière ?
Acceptez-vous le mot psychologie ou le rejetez-vous en général ?
Je ne le rejette pas, c'est un mot qui est terriblement décrié et qui généralement soulève des protestations épouvantables, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre mot après tout. Moi je dis toujours que ce que je fais finalement c'est de la psychologie, mais c'est une psychologie qui me paraît renouvelée, ce n'est pas la psychologie classique. Quand on dit psychologie, les gens imaginent tout de suite la psychologie classique et alors tout le monde pousse des cris.
Bon, mais alors cette psychologie, qui est une psychologie nouvelle, comment pourrait-on la distinguer de ce que l'on appelait psychologie jusqu'à maintenant ?
Mais je crois que c'est l'aboutissement de toute une évolution. Je n'ai pas évidemment du tout commencé à écrire les tropismes. Il y a bien des gens avant moi qui ont commencé à travailler une matière qu'ils ont cherché à creuser et enfin à voir d'une manière qui la rendait différente de ce que voyaient les analystes classiques. On pourrait commencer déjà par Flaubert, par exemple, puis par Dostoïevski. Il y aurait Dostoïevski, ensuite il y aurait Proust, Joyce, il y a eu Virginia Woolf, et c'est à la suite de tout cela que moi j'ai commencé à mettre en forme ces mouvements dramatiques que j'ai appelés les tropismes. Mais ça a été préparé par toute une évolution des notions de la psychologie, enfin en littérature.
Et le monde extérieur représente toutefois dans les œuvres de ceux dont vous avez parlé et dans les vôtres, est représenté de deux manières différentes.
Oui, parce que je crois que maintenant, dans l'art moderne, on se limite davantage. Chacun exploite un champ. C'est un peu comme dans les sciences, je crois, on est obligé d'exploiter un champ très limité. Chacun a une parcelle de terrain qu'il est obligé d'exploiter sans pouvoir s'attacher à tout. Et alors moi, mon champ d'expérience, si l'on peut dire, ce sont les tropismes, ce sont ces mouvements dramatiques que je cherche à saisir uniquement eux. Je ne m'occupe pas d'autre chose. Il n'y a que ça dans mes livres.
Autrement dit,
c'est une nouvelle action romanesque, c'est la seule action romanesque qui existe dans mes livres.
Autrement dit, vous n'accepteriez pas que l'on dise que l'objet joue un grand rôle, ainsi qu'on l'a souvent dit.
Il joue un rôle comme toutes les autres. Il y a des rapports entre mes personnages et d'autres personnages, et il y a des tropismes, des mouvements qui s'exercent à l'égard de l'objet. L'objet aussi joue un rôle, mais cet objet est constamment déformé par le personnage, par le rôle qu'il joue dans le subconscient du personnage. Donc, ainsi, une vieille dame qui s'occupe de changer le bouton de porte de sa porte, pour ce personnage-là, ce bouton de porte devient quelque chose d'immense qui occupe tout le champ de sa conscience. Il est démesurément grossi, il devient une sorte d'obsession, une idée fixe. Ce n'est plus le bouton de porte tel que nous le voyons couramment quand nous ouvrons une porte.
Alors on pourrait presque dire que l'objectivité dans le roman contemporain est un prétexte à la déformation.
Oui, je crois qu'il n'y a pas d'objectivité dans le roman. À l'heure actuelle, je ne connais pas de roman où il y ait une vue absolument objective du monde. Je crois que c'est un univers d'objets qui est toujours déformé par la vision du personnage.
Alors le nouveau roman, contrairement à ce que l'on dit, est un roman passionnel ?
Moi, je pense que oui.
Quand il était petit, la nuit, il se dressait sur son lit, il appelait. Elles accouraient, allumaient la lumière, elles prenaient dans leurs mains les linges blancs, les serviettes de toilette, les vêtements, et elles les lui montraient. Il n'y avait rien. Les linges entre leurs mains devenaient inoffensifs, se recroquevillait, devenait figé et mort dans la lumière. Maintenant qu'il était grand, il les faisait encore venir pour regarder partout, chercher en lui, bien voir et prendre entre leurs mains les peurs blotties en lui dans les recoins et les examiner à la lumière. Elles avaient l'habitude d'entrer et de regarder, et il allait au-devant d'elles. Il éclairait lui-même partout pour ne pas sentir leurs mains tâtonner dans l'obscurité. Elles regardaient, Il se tenait immobile, sans oser respirer, mais il n'y avait rien nulle part, rien qui pût effrayer, tout semblait bien en ordre, à sa place. Elle reconnaissait partout des objets familiers, depuis longtemps connus, elle les lui montrait. Il n'y avait rien. De quoi avait-il peur ? Parfois, ici ou là, dans un coin, quelque chose semblait trembler vaguement, flageoler légèrement. Mais d'une tape, elle remettait cela d'aplomb. Ce n'était rien, une de ses craintes familières. Elle la prenait et elle la lui montrait. La fille de son ami était déjà mariée, c'était cela. Ou bien un tel qui était pourtant de la même promotion que lui avait eu de l'avancement, allait être décoré. Elles arrangeaient, elles redressaient cela, ce n'était rien. Pour un instant, il se croyait plus fort, soutenu, rafistolé, mais déjà, il sentait que ses membres devenaient lourds, inertes, s'engourdissaient dans cette attente figée. Il avait, comme avant de perdre connaissance, des picotements dans les narines. Elle le voyait se replier tout à coup, prendre son air bizarrement absorbé et absent. Alors, avec des tapes légères sur les joues, les voyages des Windsor, le brun, les quintuplés, elle le ranimait. Mais tandis qu'il revenait à lui, et quand elle le laissait enfin raccommoder, nettoyer, arranger, tout bien accommodé et préparé, la peur se refermait en lui, au fond des petits compartiments, des tiroirs qu'elle venait d'ouvrir, où elle n'avait rien vu et qu'elles avaient refermés.
Est-ce que tous les tenants du nouveau roman émettent les mêmes idées ou ces idées-là vous sont-elles propres ?
Il me semble que Rob Grillet, qui me paraissait le plus objectif, pour qui les objets, les choses étaient là, admet que ces personnages sont des personnages passionnés qui regardent un univers déformé par leur passion, que ce soit la passion du jaloux ou que ce soit celle d'un criminel. Cet univers est un univers vu par quelqu'un qui est passionné, enfin, obsédé.
Quelle importance donnez-vous aux structures mêmes du langage quand vous écrivez ?
Chez moi, ce qui compte beaucoup, c'est le rythme. C'est surtout au rythme que je m'attache pour saisir ces mouvements. Pour essayer de les transmettre, il faut qu'il y ait un certain rythme de la phrase. Il faut un rythme de la phrase, il faut un rythme de tout le chapitre et de tout le livre. C'est une sorte de mouvement.
Gardez-vous un premier jet ou non ?
Alors j'écris toujours d'abord un premier jet pour grouper tous ces mouvements, pour saisir ce rythme, et puis après je les arrange, je les regroupe autrement. J'écris toujours deux fois tous mes livres.
Invariablement ?
Toujours. Il s'écoule un certain temps, car je travaille très lentement, entre la première version et la seconde. Et alors ça me permet après de voir tout ce qu'il fallait faire autrement et de reprendre autrement certains chapitres.
Bon, voilà déjà, il me semble, une différence que l'on peut établir, par exemple, alors, entre vos œuvres et les œuvres de Claude Simon. Ou, dans le cas de Claude Simon... Je crois que l'on peut aller jusqu'à dire que toutes les versions font partie de l'expression, que s'il en écrivait 10, il garderait les 10.
Ah, moi non. J'ai des brouillons et j'ai des... Pour un seul chapitre du Planétarium, je ne sais pas combien, peut-être 100 pages de versions différentes, transformées légèrement, et je ne garde que la dernière version. Ce sont des ébauches qui se transforment continuellement.
Votre texte est donc... un dessin.
Oui, ça serait plutôt comme une composition musicale, peut-être, je ne sais pas, puisque le rythme y joue un tel rôle.
Ce rythme, doit-il apparaître lorsque l'on lit à haute voix vos œuvres ?
Oui, je crois que c'est seulement le rythme qui devrait apparaître, parce que les intonations, les sentiments ne devraient pas apparaître dans la lecture, étant donné que la façon dont je travaille pourrait être comparée au travelling cinématographique où il y aurait un appareil enregistreur où limite de la conscience du personnage qui enregistrerait ces mouvements subconscients qui se produisent en lui très rapidement. Et par conséquent, ces mouvements ne sont pas colorés encore, ce ne sont pas des sentiments colorés par des sentiments. On ne peut pas le lire d'une manière avec des intonations sentimentales comme on l'a fait quelquefois. Ça doit se dérouler d'une manière tout à fait monocorde mais suivant un rythme.
Parce que vous souhaitez là une lecture d'auteur, mais le lecteur ne peut pas adopter ce point de vue.
Je crois que s'il comprend bien ce que je fais, il est forcé de le lire comme ça, en s'attachant au rythme seulement, il me semble. Autrement, il ne pourrait pas, ça déformerait entièrement ce que je cherche à faire.
Mais est-ce que ce souci rythmique va jusqu'à l'emporter sur le désir de signifier ?
Il me semble que s'il sent vraiment ce que je veux faire, il ne peut pas essayer de donner une signification en le lisant. À ce que j'écris, d'abord, ce sont des images qui cherchent à donner une sensation analogue à celle qu'éprouvait le personnage. Ce n'est pas la sensation directe du personnage, parce qu'elle est intraduisible. Je cherche à donner au lecteur une sensation par des images, une sensation analogue à celle que le personnage éprouvait. Mais cette sensation qu'éprouvait le personnage n'était pas traduite en paroles dans sa conscience. C'est des sortes de mouvements absolument sans parole qui se produisent dans le personnage. Ce sont des sortes de sensations d'ordre intellectuel. En plus.
Il me semble que l'on peut dire que pour presque tous les représentants du nouveau roman, l'expression est une analogie. Je suis frappé par l'insistance des tenants du nouveau roman sur ce point. Et quand on lit Claude Simon, quand on lit Rob Grillet, quand on vous lit, il est frappant, moins dans votre cas, il est frappant de voir combien apparaissent fréquemment des expressions telles que « comme si »,« semble-t-il ». Elles apparaissent sans cesse. On dirait qu'il y a volonté incessante de bien dire « je ne peux pas vous donner la chose même, je vous donne une analogie ».
Dans mes premiers livres, dans Le portrait d'un inconnu, je disais souvent « comme ». Et puis j'ai supprimé le « comme » et j'ai mis les images carrément comme ça, parce que je me disais « ça va de soi que c'est comme ». L'image doit être là sans même dire qu'il y a une analogie. Il n'y a que cela, que cette sensation-là. Et je crois que si nous sommes tous comme ça, c'est que nous différons beaucoup des romanciers qui faisaient de l'analyse, des romanciers classiques. Nous cherchons à transmettre directement la sensation au lieu de l'expliquer intellectuellement. Nous ne disons pas « voici ce que pensait tel et tel », mais nous essayons de transmettre directement la sensation au lecteur sans passer par son intelligence et par sa réflexion.
L'idéal pour vous serait-il de ne transmettre qu'une seule sensation dans un livre ?
Non, j'aimerais transmettre beaucoup de sensations. Enfin, le livre donne une grande sensation globale, mais il me semble qu'elle ne peut être riche et assez souple et complexe que si elle contient elle-même beaucoup de sensations.
Lorsque vous-même vous écrivez, vous ne vous attachez pas à une sensation principale et qui est constamment présente ?
Si je dois dire que quand je pense au livre, le livre représente quelque chose de global, une sensation globale. Et puis après ça, à mesure que je travaille, elle colore, si on veut, l'ensemble, mais il y a toutes sortes de sensations auxquelles je m'attache constamment, je crois, comme tout le monde.
Une œuvre, lorsque vous l'avez écrite, lorsque vous avez le désir de l'écrire, ou lorsque vous vous préparez à l'écrire, je crois que l'on peut la considérer à n'importe quel instant du temps, est-elle étalée dans la durée ou ne représente-t-elle qu'un instant ? Est-ce que c'est un instant avec lequel vous faites un livre ou au contraire, est-ce un certain temps ?
Ce sont des instants. C'est un éternel présent. Tout est au présent. Je ne vois pas des choses qui se déroulent suivant une certaine intrigue. Pour moi, c'est tout au présent. Ce sont des tropismes, des mouvements que je vois toujours au présent puisque je les saisis en train de se faire. Alors, dans chaque chapitre, on est en train de se faire, on suit un mouvement, le mouvement est terminé, il y a une sorte d'aboutissement dramatique, c'est un petit drame qui se joue, et alors le chapitre est terminé à ce moment-là, on arrive à un point culminant, et on aborde un autre chapitre. On repart de zéro, chaque chapitre est comme une sorte de poème qu'il faut retravailler entièrement. Et on n'est pas poussé par le chapitre précédent.
Alors que les hommes, tous réunis d'un côté du salon, discutent comme il se doit de finances ou de politique, lui se tient un peu à l'écart, écoutant d'une oreille distraite. Les bras appuyés aux accoudoirs du fauteuil, ses cuisses un peu grasses écartées, penchées légèrement en avant, il suit des yeux, avec une attention amusée, les jeunes femmes, les jeunes filles, qui s'empressent, offrent les petits fours, versent le thé. Et tout à coup, quand elles passent à sa portée, comme dans ces jeux de foire où l'on s'amuse à accrocher à l'aide d'une gaule terminée par un anneau des objets exposés sur une plaque tournante, il lance sa gaule brusquement. « Et alors ? Et alors ? Comment ça va-t-il ? Comment ça va-t-il donc ?» Il regarde l'assiette de petit four. « C'est du touron, hein ? Hein ? Ce n'est pas du touron ? C'est bon, ça, le touron. Vous aimez cela ? Vous savez ce que c'est ? Et le fandango, hein ? Vous connaissez le fandango ? C'est joli. Vous savez danser cela, le fandango ? Hein ? Hein ?» Elles rougissent légèrement, un peu décontenancées, mais elles se remettent très vite. Elles connaissent ces manières bizarres, ces boutades de vieille originale, et elles sourient gentiment, d'un air innocent, en essayant de se dégager doucement. « Mais bien sûr que je connais cela. Je dansais le fandango quand j'étais petite. Vous savez bien, c'est mon pays, je suis née là-bas. » Il rit, l'air enchanté, de son rire pour lui tout seul. Il serre plus fort, il tire. Biarritz, hein, hein, Ustaritz. Vous savez ce que c'est? Vous connaissez? Ustaritz. Il roule les airs très fort. Biarritz, Labidassoa, hein, hein, Chocoa. Ou bien autre chose, suivant les cas. Perros-Guirec, hein, hein, Plohermel, Plougastel, les galettes, les flancs, hein, Pont-Aven, la pointe du Raz. Il n'a pas besoin de chercher bien loin. N'importe quoi, il le sait, peut faire l'affaire. Ce sont les timides surtout qu'il choisit, je l'ai remarqué. Les délicates, les sensitives, qui tressaillent, rougissent plus vite que les autres et se mettent à frétiller doucement en faisant des efforts attendrissants pour se dégager. « Kotorichas !» leur dit-il à brûle-pourpoint. « Tchernosium ! Hein ? Hein ? Novotcherkask ! » Il détache fortement chaque syllabe. « Novorossisk ! » Il sait où les accrocher le plus commodément. Il se souvient toujours, il ne se trompe pas. « Kotorichas ! Hein ? Hein ? Vladivostok ! Poltava ! » Il regarde amusé comme elles se débattent timidement, gênées, comme un peu honteuses et en même temps vaguement flattées. Elles sourient gentiment, attentives à lui plaire, et répondent d'une petite voix tout juste un peu troublée. « Non, je ne sais pas le russe. Je suis né ici. Toutes ces villes russes, vous savez, la géographie et moi. Et vous, vous êtes allé là-bas » Elles découvrent délicieusement, en souriant leurs petites dents. Elles frétillent légèrement. Des êtres exquis, tout d'instinct, des abeilles, des papillons. C'est ainsi qu'ils les appellent souvent. Il aime la grâce de leurs gestes délicats, leurs réflexes si vifs, si subtils auprès de la lourdeur résonante de leur père ou de leur mari. Il se rengorge, ravi, il prolonge encore le jeu, jusqu'au moment où, fatigué tout à coup, il les lâche après avoir répété, mais juste pour la forme et presque mécaniquement, « Ah tiens, ah vous ne comprenez pas, ah ah, vous n'y êtes jamais allé, la géographie ne vous intéresse pas. » D'une voix un peu atone, lassée, il est apaisé, satisfait, son regard glisse sur elle distraitement, tandis qu'il se lève pour se rapprocher du groupe des hommes. Debout près d'eux, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon où il remue d'un geste familier ses clés, il écoute en opinant de la tête gravement. Bientôt il intervient, ses paroles semblent bien pesées, pleines d'assurance. « Mais il n'y a pas de question, mais il ne peut pas en être question, ils vont à un échec certain, jamais la chambre ne laissera passer le projet, il n'obtiendra jamais un vote de confiance. » Il discute avec animation, tout à son affaire. Un courant s'établit, délicieux. Le cercle des hommes, solide, rassurant, se resserre autour de lui. Bien d'aplomb sur ses pieds écartés, les mains enfoncées dans les poches où il fait tinter ses clés, il a l'air détendu, sûr de lui, tout à fait dans son élément. Rien de commun maintenant, pas le moindre lien entre lui et la forme grotesque de la nuit. Si j'essaie, par un très grand effort, de l'évoquer de nouveau, cette image tourmentée, il me semble que, pareil à mon ombre portée, elle me rejoint, et comme mon ombre, quand le soleil monte dans le ciel, elle diminue rapidement, se ramasse à mes pieds en une petite tache informe, se résorbe en moi-même.
Nathalie Sarraute, quelle place faites-vous au dialogue dans un roman ?
Ah ben, chez moi, le dialogue, c'est exactement le lieu commun, c'est-à-dire tous ces mouvements secrets, souvent inconscient, à peine conscient, se manifeste au dehors par le dialogue, par des paroles toujours banales, volontairement extrêmement banales. Parce qu'il faut montrer que c'est justement sous cette banalité que se manifestent ces tropismes qui sont souvent des mouvements assez dangereux, assez angoissants.
Le passage que nous venons d'entendre ne consiste pas dans un dialogue de lieu commun.
C'est un dialogue qui me paraît tout à fait ordinaire.
C'est même un monologue, mais...
Un vieux monsieur pose des questions comme ça à des jeunes filles, citant des villes, imaginons qu'elles sont allées là, et en apparence, c'est complètement anodin. On peut demander à une jeune fille si elle danse le fandango, ou lui dire Ustaritz, Biarritz, pour, comme ça, pour rire, pour s'amuser, sans que ça ait le moindre caractère inquiétant. Alors c'est par la préparation que ces mots prennent un caractère inquiétant. Les mots en eux-mêmes ne doivent pas signifier quoi que ce soit. C'est ainsi que sont toujours à peu près mes dialogues. Les dialogues sont une sorte de conversation qui devrait, si elle était séparée du contexte, paraître complètement anodine ou insignifiante. Il n'y a que la préparation, la sous-conversation qui lui donne sa coloration. En elle-même, elle ne signifie rien.
Alors est-ce que... Vous entrelacez deux tissus très distincts, celui du dialogue.
Il y avait par exemple dans Marthereau, j'avais voulu simplement m'amuser à montrer que le dialogue tel qu'il est pris dans le roman traditionnel ne signifie rien. Tout dépend de la préparation du dialogue. Alors j'avais fait quatre scènes entre un mari et une femme dans lesquelles ils échangeaient les mêmes phrases banales. Il disait trois phrases qui se terminent, où il disait « Ne m'attends pas, je vais sortir, faire un tour, couche-toi » ou échanger encore quelques propos d'une banalité totale. Et je montrais que c'était quatre scènes qui pouvaient être entièrement différentes si on montrait les tropismes qui faisaient aboutir à ces phrases. Que par conséquent, se borner à dire simplement « dit-il », donnant le dialogue et « dit-il », ça ne signifie pas grand-chose. Tout dépend de ce que cela veut dire, comment c'est préparé à l'intérieur du personnage.
Alors, est-ce que l'on pourra aller jusqu'à dire que, à l'intérieur de la construction, cette fois, je ne pense pas au sens, qu'à l'intérieur de la construction, vous essayez d'obtenir ce qui serait un niveau zéro dans le dialogue?
Oui, à peu près, c'est cela.
Et qu'à partir de ce niveau, le reste, lui, est modulé?
Oui, absolument. Le dialogue est l'affleurement à la surface de choses qui restent secrètes et qui sont cachées, mais qui, pour affleurer à la surface, doivent prendre un caractère banal et anodin, parce qu'elles n'osent pas se montrer. Alors, pour pouvoir impunément se manifester, elles se manifestent recouvertes par ce dialogue, qui est un dialogue tout à fait banal, volontairement banal.
Autrement dit,
ce vieux monsieur ne dit rien à la jeune fille qu'il ne puisse lui dire.
Vous essayez de signifier plus en disant le moins.
Exactement. La signification vient de la sous-conversation, qui sont les tropismes, qui sont ces mouvements qui préparent cela.
Alors, vous abandonnez peu ou beaucoup au lecteur?
Je crois que le lecteur doit essayer de suivre le mouvement. Ici, par exemple, ce n'est pas chez le vieux monsieur que le mouvement est suivi, mais dans l'impression qu'il fait sur la jeune fille, le mouvement qu'il y a en lui doit être transmis au lecteur. Le lecteur doit être à la place des jeunes filles et sentir ce qu'il y a d'agression, ce qu'il y a de sadisme.
Ce dialogue représente un niveau zéro, mais seul, il ne serait pas concevable.
Il n'aurait aucune signification, ce ne serait rien, absolument rien. Il pourrait signifier n'importe quoi. Ce même dialogue pourrait être tout à fait charmant, absolument des plaisanteries anodines de bon grand-père, s'il n'était pas préparé par quelque chose qui montrerait son caractère inquiétant.
Et que vous êtes obligé de dire dans la partie qui n'est pas dialogue.
Oui, je suis obligé de le montrer, de transmettre la sensation, pas l'explication, mais de transmettre une sensation inquiétante qui après colorera le dialogue. Sans quoi le dialogue n'a aucune signification. En lui-même, il ne signifie rien. Il peut être n'importe quoi.
Lorsque vous faites cette partie qui, par les indications qu'elle contient, par les sensations transmises qui s'y trouvent, lorsque vous écrivez cette partie qui, elle, est modulée, avez-vous l'impression de faire violence à l'objet que vous décrivez? Avez-vous l'impression de contraindre les êtres que vous décrivez, de leur donner à force une forme?
Non, j'ai l'impression de leur arracher quelque chose qu'ils cachent et qui est là. Et que, avec des efforts immenses, j'essaye de leur arracher.
Pour le lecteur, il est net que vous faites violence à ceux que vous décrivez.
Et peut-être par l'effort que je fais pour le leur arracher, je les déforme. Ça, c'est très possible. Pour les rendre plus visibles.
Vous leur imposez une forme?
Oui, certainement. Je leur impose une forme, certainement.
Et en partie par les liens que vous tissez entre eux et le monde, eux et les objets, et entre eux.
Ah, c'est possible.
Enfin,
je ne m'en rends pas compte.
C'est l'impression du lecteur. Et on a même l'impression, lorsque l'on vous lit, que les jeux de la lumière sur les gens vous gênent. J'ai l'impression que la lumière est une chose qui ne vous plaît pas tellement.
Ça dépend. Ça dépend des scènes. Mais en général, elle n'intervient pas beaucoup parce qu'on se trouve dans cet univers dans lequel il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Enfin, on n'est pas au dehors, on est presque toujours au dedans. Et même quand on est au dehors, c'est vu par le dedans. Il y a une certaine uniformité d'éclairage.
C'est un peu ce que je veux dire.
Oui, certainement. Il faut que toute l'attention soit concentrée sur les tropismes. Il faut que rien ne distrait l'attention du lecteur, ni la mienne, des tropismes, de ce mouvement qu'il faut suivre. On ne s'occupe de rien d'autre. Tout le reste doit disparaître. Le mouvement doit être isolé et pris en soi. C'est ça.
Revenons à ce dialogue niveau zéro que vous souhaitez établir. Et aux conversations dont des bribes parviennent. Ces bribes, vous les organisez. Vous l'avez dit tout à l'heure que lorsqu'on entend une conversation, on recueille un mot par-ci, un mot par-là. Non, mais l'organisation de ces mots recueillis à droite et à gauche se fait dans l'esprit de l'auteur. Est-ce que l'auteur a le droit de réduire les personnages aux messages réduits qui lui viennent d'un seul personnage?
Et pourquoi n'aurait-il pas le droit de le faire? Pourquoi parler de droit, si c'est comme ça que l'auteur voit le personnage? Pas même les personnages, parce que les personnages, en réalité, c'est pas ça qui l'intéresse, mais les mouvements, ces mouvements, ces tropismes, s'il les voit comme ça, traduits par certains mots, ben, il choisit ces mouvements et ces mots qui les traduisent.
Mais la légitimité à laquelle je faisais allusion n'a rien de juridique.
Non, non, je comprends bien, mais même au point de vue simplement de
l'effort. Ni de morale.
Non, non, mais littérairement, pourquoi ne pourrait-il pas choisir exactement la substance qui l'intéresse, celle qu'il voit, qu'il sent?
Est-ce que ce n'est pas, dans une certaine mesure, minimiser l'autre? J'entends un mot prononcé par cet homme qui est loin de moi et qui en a dit 15. Est-ce que je ne le minimise pas dans une certaine mesure si je ne recueille qu'un mot?
Mais je crois que pour moi ce n'est pas minimiser, c'est au contraire magnifier, parce que je trouve que c'est comme le chat d'une aiguille. À travers ce mot, on peut percer davantage tout le fond d'un être qu'à travers toutes les conversations qu'il a pu avoir au cours de toute sa vie. Il suffit quelquefois d'entendre l'intonation de quelques mots pour percer et aller plus loin dans la connaissance de quelqu'un qu'en l'écoutant parler pendant des heures. Ou des années même.
Mais alors, je retrouve là, dans ce que vous venez de dire, une fois de plus, il me semble, une volonté très importante dans le nouveau roman, et très importante en particulier dans votre cas, signifier beaucoup avec la plus légère information possible.
Oui, c'est-à-dire essayer, c'est une façon de grossir, au fond, les choses.
Et de les reconstituer, peut-être.
Oui, nous les regardons maintenant au microscope, je crois. On les regarde très près, alors elles grossissent immensément.
Et est-ce que vous ne retenez pas un détail pour reconstituer un ensemble?
Si ce détail révèle l'ensemble. C'est par ce détail qu'on peut avoir une vue, une image, une idée de l'ensemble.
N'est-ce pas une volonté, une intention? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de délibéré à la base? Ne prendre qu'un détail pour reconstituer tout.
Je ne peux pas dire que chez moi ça a été délibéré. C'était vraiment des choses que je sentais comme ça. Je ne crois pas que j'ai jamais écrit quoi que ce soit délibérément en me disant « c'est comme ça qu'il faut faire ». À la base, il y avait de véritables sensations absolument spontanées que j'ai organisées d'une certaine manière pour les rendre mieux transmissibles, mieux perceptibles. Il n'y avait pas d'idées préconçues chez moi.
En étant présence tout de même d'un paradoxe, je crois qu'on le retrouve beaucoup dans la littérature contemporaine et peut-être dans certains aspects du cinéma contemporain. Ce fait que nous, spectateurs et auteurs, et à ce moment-là nous sommes sur le même plan, que nous, spectateurs et auteurs, nous recevons des messages tout à fait fragmentaires, nous les organisons et nous voulons donner une totalité, en sachant très bien que ce que nous avons recueilli est très discontinu et très discret. Ça, c'est tout à fait neuf, ça.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que dans les œuvres du passé, c'était toujours très fragmentaire? Ce n'est pas parce qu'on prenait des espaces plus grands que par rapport
le
à l'immensité
est réduit.
Du monde.
Le fragment ne cesse pas de se réduire.
Il se réduit, mais ça revient au même par rapport à l'immensité de l'univers, de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on peut voir. C'est toujours, la proportion était immensément petite par rapport à tout ce que nous pourrions connaître et montrer.
Le fragment se réduit, mais je me demande si la vision de l'homme, si on, dans une certaine mesure, nous n'en arrivons pas tout de même à pousser l'homme un peu à l'aspect mannequin, l'individu.
Alors là, je n'ai pas cette impression. J'ai l'impression, au contraire, de l'étendre et d'en faire simplement quelque chose comme le réceptacle d'une immense substance anonyme qui coule en tous, qui est exactement pareil chez tous. Et au contraire, l'épandre, il perd ses contours, il se fond dans l'univers de tous les autres. Pour moi, il devient immense, au contraire, parce que tous ces mouvements sont répandus partout, chacun les a. L'idéal. Et il y a bien d'autres mouvements encore, bien d'autres que ceux que je décris. Je ne décris qu'une petite partie. J'ai l'impression qu'au contraire, l'homme s'étend depuis le personnage très limité, réduit à certains contours très précis, que maintenant, c'est l'être, quoi, qui est pris dans son ensemble.
L'idéal serait-il d'assimiler totalement un être à un autre et tous les êtres à un seul?
J'ai l'impression que quand on veut essayer de saisir les hommes à un certain niveau de conscience, on est obligé de croire à leur identité, à ce niveau-là, quand on n'est pas au niveau de l'action extérieure, du caractère qui existe. À ce niveau, par exemple, où je suis, les gens sont identiques à peu près. Ils ont à peu près tous les mêmes mouvements.
Alors c'est peut-être le désir de saisir cette identité qui provoque, qui impose l'angle de vision.
Probablement, oui.
Qu'il commande de manière absolue. Est-ce que ce serait là l'objet de la littérature et l'objet du roman en particulier, ne saisir que ce qu'il y a d'absolument commun entre les êtres et dire qu'ils sont tous exactement semblables?
Il me semble que c'est cela et que finalement ce qui fait que nous pouvons comprendre les personnages de romans, même des romans classiques, c'est cette identité absolue qu'il y a entre tous les êtres. Le fait que je peux comprendre les mouvements qui se passent, mettons, chez le père Karamazov ou chez Julien Sorel, qui sont complètement différents de moi, fait que ça prouve qu'il y a une identité entre nous qui est complète, enfin, à certains niveaux.
Si bien que, lorsque vous parlez des romans que vous admirez, pensez-vous que l'angle de vue de l'auteur, que son propos, au fond, était très voisin du vôtre, le même peut-être, et qu'il y a, chez le romancier, une constance de vision absolue au travers de toute l'histoire du roman?
Oui, je crois qu'il y a une constance dans l'effort fait toujours à peu près du même ordre. Je crois que cela, ça n'a pas changé. Mais je crois que la matière étudiée est une chose qui se transforme constamment, qu'il y a des parties qui sont déjà connues, archi-connues, qu'on ne peut plus voir qu'à travers des formes convenues, et qu'on est obligé d'écarter, et que continuellement, nous essayons de découvrir une matière qui n'a pas encore été vue.
Et qui soit commune à tous.
Et qui soit toujours commune à tous. Je crois qu'autrement, elle ne serait absolument pas perceptible pour les autres. Et nous ne la percevrions pas nous-mêmes. Elle est toujours commune, il me semble.
La psychologie est vraiment l'essentiel du roman contemporain, si je vous crois.
Mais c'est un mot que tout le monde déteste. Et je crois que je suis la seule à oser l'employer. Les autres, quand on leur parle de psychologie, poussent des cris. C'est un mot qu'il ne faut pas employer. Il faut trouver autre chose. Il y a l'être, l'ontologie, mais pas la psychologie. Surtout pas la psychologie.
C'était un soir, un beau soir de printemps, je m'en souviens. Je l'ai rencontré avec un ami à lui, en train de prendre le frais sur le boulevard. Ils marchaient tous les deux côte à côte, dans l'allée du milieu, où l'air était meilleur, entre les deux rangées de platanes. Ils avançaient lentement, appuyés l'un sur l'autre, comme portés par l'air douceâtre et mou du soir. On aurait dit qu'ils tenaient en laisse, traînant derrière eux languissamment, l'air maussade, un jeune homme, un adolescent, le fils de l'ami, je crois. Je me suis mis à les suivre aussi, marchant en silence à côté de lui. Ils discutaient entre eux de leurs sujets préférés. Ils parlaient de la mort, de la vie. Ils avaient l'air de ne pas nous remarquer, mais c'était, je le savais, et l'adolescent Mossad le savait sûrement aussi, une parade en notre honneur. « La mort, disait-il à son ami, la vie. » Et je sentais comme il se pelotonnait délicieusement en lançant sur l'adolescent et moi un regard de côté pour juger de l'effet produit. Comme ce sont des questions qu'on grossit dans la jeunesse. L'importance démesurée, il agitait les bras dans un geste emphatique, qu'on attache à tout cela, à sa mort, à sa vie. Maintenant que la fin se rapproche de toute cette comédie, on s'aperçoit que ce n'était rien vraiment, à peine un instant de conscience, un éclair. Et quand on pense combien peu de gens songent à cela, ils ne s'en préoccupent jamais, par peur, par inconscience. Mais pour moi, qui le vois toujours comme le fond immuable sur lequel se joue la comédie, je comprends de mieux en mieux combien tout cela compte peu, passe vite, toutes ces rêveries de gloire, d'amour, de bonheur qui amusent notre jeunesse. C'est que pour nous, hein, il souriait de son air fin, désabusé, pour nous c'est bientôt fini, le tour est joué. L'adolescent Mossad continuait à les suivre docilement en silence. L'auréole dont il se nimbait le fascinait sans doute, ou peut-être n'avait-il pas la force de lutter, tout affaibli qu'il était, fragile et sans défense, dans l'air trop tiède et doux, dans la mollesse déliquescente de ce soir de printemps. De temps en temps, on les voyait s'écarter l'un de l'autre et se donner de grands coups sur l'épaule, l'air satisfait, et les pans de leur long pardessus noir, un moment confondu, se séparaient et flottaient derrière eux comme des bannières, des étendards. « Oui, disait-il, j'avais un ami qui avait dressé son perroquet à dire à tout propos, « Tout cela n'a vraiment aucune importance. Croyez-moi, chacun de nous, à notre âge surtout, devrait avoir un perroquet comme celui de mon vieil ami. » C'est ainsi que je l'ai vu jouer un soir à ces jeux en apparence anodins, à ces jeux clandestins, donner, sur de l'impunité, ses coups de patte furtifs comme un chat qui joue avec une souris.
Vous avez entendu « Domaine du roman », une émission de Georges Charbonnier. Texte lu par Pascal Mazotti. Aujourd'hui, Nathalie Sarraute. La semaine prochaine, Michel Butor.
C'était un numéro de Domaine du roman de Georges Charbonnier avec Nathalie Sarraute et des lectures de Pascal Mazotti. Première diffusion le 29 mai 1961 sur France 3 Nationale.